La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'activité artistique et culturelle en milieu rural. On n'en parle pas suffisamment. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir donc Didier Boigard, qui travaille au pied du Mont Ventoux dans une structure associative qui s'appelle Grandeur Nature. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'intituler l'émission que nous allons écouter, donc les chemins artistiques de Grandeur Nature au pied du Mont Ventoux. Si vous souhaitez savoir de quoi cela parle en particulier, je vous invite à nous écouter pendant 30 minutes. Didier, bonjour.
Bonjour Bertrand.
Donc Didier, en quelques mots, est-ce que tu peux nous préciser d'abord où se situe le Mont Ventoux? Parce que moi, je sais à peu près où ça se situe au nord de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que tu peux nous fixer un peu le paysage et nous expliquer depuis combien d'années Grandeur Nature, donc qui est une association, y est implantée?
Alors le Mont Ventoux, c'est ce qu'on appelle le géant de Provence, hein. C'est cette grande montagne qu'on voit d'assez loin, d'Avignon particulièrement, Cavaillon. C'est donc ce massif qui est tout au nord du Vaucluse, et là où nous sommes nous implantés, donc le projet Grandeur Nature depuis 7 ans, depuis 2013, nous sommes implantés dans la vallée du Toulourain, qui est la vallée nord du Mont Ventoux. Donc beaucoup moins connu que le versant sud, tout ce versant qui est du côté de Bédouin, Carpentras, qui est une vallée assez encaissée et qui en fait est une vallée assez sombre. Ça a toujours été dans l'histoire la vallée nord, la vallée de l'ombre, la vallée des mystères, même avec des histoires anciennes qui parlent de la vallée des sorcières. Et donc cette vallée, il y a une rivière qui s'appelle le Toulourain, qui serpente cette vallée. Et nous sommes implantés dans un tout petit village qui s'appelle Savoyant, qui est un petit village où il y a moins de 100 habitants. La vallée du Toulourain, pour préciser, c'est une vallée qui en fait chevauche deux départements, la Drôme et le Vaucluse. Donc nous, le village de Savoyant, nous sommes vraiment le dernier village du Vaucluse et le dernier village de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque la frontière avec la Drôme est à peine 1 kilomètre de là où on se situe.
Merci Didier. Je précise une chose parce que je ne savais pas il y a quelque temps, mais le parc du Mont Ventoux est un des derniers parcs créés en France. Créé donc en juillet, je crois, 2020. Donc c'est un parc qui est tout récent au niveau de son existence juridique. Didier, j'ai une question peut-être un peu personnelle, mais c'est vrai que les activités culturelles et artistiques en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, sont essentiellement concentrées dans les métropoles, Marseille-Aix, Toulon et Nice, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'installer à cet endroit précis? Est-ce que c'est le hasard ou c'est le fruit d'une réflexion particulière?
C'est un petit peu les deux, je vais dire. En fait, j'ai vécu pendant des années et j'ai travaillé pendant des années sur des projets culturels vraiment au milieu urbain, hein, notamment à Marseille, hein, dans les années 80, 90 jusqu'aux années 2000. Et à un moment donné, je sentais moi personnellement, là c'est personnel, une sorte d'essoufflement de ce tissu urbain. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je travaillais sur des projets qui étaient les projets qui allaient prendre naissance, c'était la fête de la Durance et la fête des PNR, justement. Et ça m'a permis, à un moment, de sillonner, naviguer, on va dire, dans la province provençale. Et disons que, voilà, j'avais cette envie, moi, de quitter la ville et de peut-être passer à autre chose. Après, personnellement, c'est un coup de cœur vraiment à Savoyant, puisque c'est là que j'ai trouvé ma compagne avec qui je vis depuis 20 ans. Et en fait, par la suite, le choix d'implanter Grandeur Nature ici, dans cette vallée. Grandeur Nature, à l'initial, c'était un projet qui est né et qui s'est développé dans le Quérin depuis 2004. Et qui a connu un creux de vague, on va dire, comme toutes les associations peuvent connaître, après les années 2010, hein, 2011, 2012. C'était assez difficile. Moi, j'étais bien implanté déjà puisque je vivais ici depuis 2002. J'avais rencontré un peu les différents acteurs culturels de la région, les différents qui sont aujourd'hui nos partenaires, hein, les institutions qui organisaient des événements. Et c'est notamment le syndicat mixte du Mont Ventoux qui, à un moment donné, m'a incité à venir implanter l'association et l'activité de grandeur nature sur le massif du Mont Ventoux, lieu où je vivais donc. Et c'est comme ça que s'est fait ce choix. Et depuis, enfin moi, ce qui m'a beaucoup plu, hein, pour répondre à ta question, c'est que ce que j'ai senti dans cette vallée, c'est une vraie dynamique de territoire, parce que c'est une vallée qui est, comme je le disais, sur deux départements, sur deux régions, c'est à la croisée des projets. À l'époque, c'était encore des projets. Il y avait le projet justement du PNR du Ventoux, il y avait le projet du PNR des Baronnies provençales. Et je sentais qu'il y avait quelque chose vraiment fort et puis une véritable solidarité entre les gens. Et ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'est que c'est encore un lieu où il y a une vraie activité agricole, c'est-à-dire avec des paysans, voilà, qui font de l'élevage, qui font pousser ce qu'on appelle ici le petit épeautre, et des traditions très ancrées. En même temps, ici, la chasse, c'est quelque chose d'important, la cueillette de champignons, c'est quelque chose de sacré. Et en même temps, avec une ouverture d'esprit, avec toutes ces associations que je pouvais rencontrer, hein, il y a une maison d'édition, il y a tout un tas d'associations qui s'activent pour faire organiser des concerts, faire venir des compagnies de théâtre. Et du coup, ça avait un sens que Grandeur Nature vienne se poser là. Et c'est là, comme ça qu'en 2013, on a créé le sentier d'art environnemental à Savoyan, et qu'on a pu avoir à l'époque un atelier pour recevoir les artistes.
Merci, merci beaucoup Didier. J'ai des questions me viennent à l'esprit évidemment. Concernant, bon, il faut rappeler que le Mont Ventoux attire énormément de touristes, hein, mais des touristes qui viennent pas forcément pour réaliser des activités culturelles. Donc l'association est fixée à l'année depuis 2013. Les questions que je me pose, c'est en fonction de la population, le nombre d'habitants qui est très très restreint, comment le festival et le sentier ont émergé dans l'esprit de l'association, dans ton esprit en particulier, parce que peu d'habitants, donc peu éventuellement d'interlocuteurs culturels. Je me pose des questions sur la manière dont petit à petit un projet culturel et artistique peut émerger, en fait, parce que c'est pas un contexte habituel. Un village de 100 habitants, ça signifie, j'insiste dessus, parce que c'est très peu d'interlocuteurs, en fait. Donc comment tu as créé l'activité de Grandeur Nature, en fait, et le festival?
Comme tu dis, effectivement, on a une densité vraiment très minime, hein, puisque non seulement effectivement Savoyan, c'est moins de 100 habitants, et la vallée dans son ensemble, qui regroupe 6 villages, hein, sur à peu près 20 km, c'est moins de 1000 habitants, 1000 âmes qui vivent là, on va dire, au long de l'année. Par contre, c'est vrai que c'est une vallée qui s'active au printemps, on va dire. Montbrun-les-Bains, qui est en Drôme, là, juste au village tout près d'ici, c'est une petite station thermale, donc qui fait que il y a une activité quand même par rapport à d'autres vallées qui sont plus lointaines, dans les Baronnies provençales, où là, on est vraiment, il y a très très peu d'activité. Cette activité thermale permet en fait à la vallée de se réveiller au mois de mars jusqu'au mois de novembre, ce qui fait quand même plusieurs mois dans l'année où on a vraiment du passage et on a vraiment il y a une vraie vie qui se met en route. Et le festival, lui, il a été, alors le festival, nous on faisait aussi du cinéma, maintenant aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est particulièrement sur de l'art environnemental et de l'art contemporain. Mais à l'époque, on faisait aussi des projections de cinéma, et c'est vrai que ça a beaucoup plu à la population locale, et ça nous a permis, par ce biais-là, de faire découvrir cette autre activité qui est utiliser un sentier, hein, y installer des œuvres, Et disons que ce qui a aussi conquis la population, c'est que dès le départ, dès qu'on préparait le projet du festival, on organisait des réunions, une concertation avec les gens du village et des villages, parce que voilà, on peut dire qu'ici, voilà, il y a une tous les villages sont, c'est tellement peu de personnes que tout le monde est concerné par dès qu'il se passe quelque chose, et que ça a beaucoup aidé de pouvoir expliquer pourquoi recevoir des artistes, pourquoi cette œuvre installée, le sens que ça a, et puis avoir le retour aussi de ces gens, comme je le disais, qui sont quand même très 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 dans la tradition. Et voilà, et ça a été, disons que ça nous a vraiment facilité l'implantation. Et on peut dire aujourd'hui, enfin voilà, il n'y a pas une personne dans la vallée qui ne connaît pas le sentier et qui est presque, on va dire, par exemple, je sais pas, comme les Parisiens, quand ils reçoivent de la famille de la province, ils vont visiter la Tour Eiffel. Ici, c'est, voilà, dès qu'il y a les gens, dès qu'ils ont une sortie à faire, c'est, ben, on va à Savoyan, on va vous faire découvrir ce qui se passe, on va vous faire découvrir ce sentier incroyable avec des artistes qui viennent faire des choses. Et ce qui est aussi important, c'est que durant les résidences, on organise des repas à l'atelier. Et ça permet on invite les gens à venir, vient qui veut, avec ce qu'il faut pour mettre sur le barbecue ou une salade. Et ça permet aussi d'avoir des échanges et d'impliquer la population au projet. Est-ce que j'ai
Merci.
répondu à ta question?
Ah oui, complètement. Mais non, mais en fait, bon, je suis déjà venu, hein. On a quand même fait quelques rendez-vous et à Marseille et à Savoyan. C'est vrai quand je t'entends, mais je pense que ça doit être perceptible aussi pour les gens qui écoutent, c'est que y a un autre rythme. Moi, donc le siège social de la région est à Marseille, mais là, d'où tu parles, on sent qu'il y a un rythme très proche bah, des saisons, de la nature, chose qu'on perçoit beaucoup moins en ville. Et donc, c'est très particulier.
Tout à fait, tout à fait. On a ce qu'on appelle, nous ici, on a un moment tous un soulagement. En fait, les gens pourraient penser le contraire quand on voit la fin de saison arriver, parce qu'on sait que c'est un moment où le temps de l'hiver ici, c'est un moment où tout se pose, quoi. C'est comme la nature, tout se met en sommeil, et c'est le moment où chacun, bon, en étant reclus chez soi, bien au chaud, parce que c'est quand même une région où il peut faire très très froid l'hiver, mais en même temps, c'est ce moment où il y a un échange particulier qui se fait avec les différentes personnes, enfin, avec la population, hein. Voilà, il y a des repas qui s'organisent, des repas collectifs, et c'est très important. Enfin, voilà, il y a une, comment on pourrait dire, une cohésion sociale très très forte entre que ce soit le boulanger, que ce soit le producteur de fromage de chèvre, les marchés. Voilà, c'est des moments où on se retrouve. Et après, on est aussi heureux de voir arriver le printemps, évidemment, puisque là, on sait que c'est l'activité qui reprend, et que tout ce temps d'hiver a aussi été un temps de réflexion, où on peut imaginer les choses, où on a le temps de pouvoir se poser, regarder ce qui a été fait, et puis se dire qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, et qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est quand on est en milieu rural sur un projet comme ça, bon, en comparaison avec des projets urbains, c'est que les choses prennent beaucoup de temps. Moi, j'ai monté des projets à Marseille dans les années 80. À cette époque-là, c'était, on va dire, l'année de tout est possible, les choses allaient très vite. Ici, pour arriver à amener, par exemple, en 2013, Grandeur Nature, ce qui était bon, il y avait une demande, mais en même temps, il faut du temps. Il faut que les gens comprennent. Il faut leur expliquer. C'est pas quelque chose qu'on peut amener comme ça, comme une cerise sur le gâteau. Ou par exemple en ville, bon, il y a des choses, voilà, un lieu qui se trouve, c'est nouveau, patate, il y a tout de suite une espèce d'énergie qui se dégage. Là, ici, comme ça peut pas marcher. Il faut vraiment que les gens comprennent pour qu'ils puissent intégrer le projet, et puis d'un coup avoir envie d'y participer, quoi, d'être vraiment partie intégrante.
Merci Didier. Oui, c'est vrai qu'en période de crise sanitaire, avec tous ces épisodes de confinement et reconfinement qu'on a vécu, je pense, en tout cas moi, ça fait résonner des choses en moi, puisque le confinement nous a tous obligés à vivre une expérience de retrait, en fait, un peu de mise en sommeil de l'activité, qui parfois était douloureuse, je pense, et puis parfois avait des côtés pas désagréables, dans la mesure où ça permettait, je pense, à beaucoup de personnes, en tout cas moi, ça m'a permis de peut-être me recentrer sur des choses plus essentielles. En tout cas, ce que tu viens de nous raconter me fait penser que, évidemment, donc petit village, donc petite population, obligatoirement un projet de quelque type qu'il soit, un festival, un sentier implanté dans la nature, t'a obligé rapidement à essayer de trouver j'imagine, des interlocuteurs politiques. Mais pas qu'un seul, puisqu'en fait, la mairie de Savoyant, c'est 100 habitants, et tu nous rappelais que ton aire, en fait, d'activité est plus large que ça. Donc, la question est de savoir comment tu as noué des liens avec différents interlocuteurs, des élus, différents interlocuteurs politiques, et peut-être aussi associatifs pour, développer le projet et l'implanter dans le temps.
En 2013, quand le projet s'est implanté ici, c'était un vrai pari. Parce que, comme je te le disais, on était dans un creux de vague, hein, grandeur nature à ce moment-là, vraiment chercher ses repères, le Queyras, ça fonctionnait plus à cette époque-là. On avait passé de belles années, aussi dans un territoire formidable, hein, mais où justement les choses avaient été trop vite. C'était au départ sur ce territoire là-bas, c'était vraiment un projet de citadin qui voulait imposer quelque chose sur un territoire. Et ça marche quelques années, mais ça peut pas marcher longtemps. Et quand on est arrivé ici, je crois ce qui a aussi fait un plus quelque part, c'est que nous les plus proches, hein, les plus proches, c'est les maires, hein, vraiment des villages. C'est des gens qu'on voit tous les jours, avec qui on échange, avec qui on peut boire le café. Et quand ils ont vu ce projet arriver, nous on avait à ce moment-là moins d'aide que ce qu'on avait dans le Queyras, et on avait mis vraiment ce qu'on peut dire entre guillemets toutes nos billes sur cette implantation en 2013, c'est-à-dire que tous les fonds propres qui nous restaient, c'était un peu voilà un pari. Et ça les maires ils ont été vraiment sensibles, parce qu'ils se sont dit voilà des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose ici, et c'est comme ça qu'ils se sont décidés à nous aider, hein. Je dis au pluriel parce que ce soit les maires de Saint-Léger-du-Ventoux, Brantes, enfin voilà, ou même des communes avoisinantes qui sont dans la Drôme. Et ça c'était important. Et puis aussi ce qui nous a vraiment aidés, c'est que c'était une époque, enfin, à ce moment-là, où il y avait tout un tas de concertations publiques, justement sur les projets de pays, sur les projets de PNR, sur voilà, il y avait toute une structuration, les structurations des Comcom. Donc ça nous permettait de participer à des réunions, donc de rencontrer les élus locaux. Il y avait aussi tout simplement des citoyens, hein, qui venaient pour donner leur avis et leurs idées. Et voilà, je crois qu'en milieu rural, un projet culturel, pour qu'il puisse réussir, il faut que ce soit un projet citoyen. Il faut que les gens se l'approprient, le comprennent, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et puis du coup, ça nous a permis aussi, nous, de comprendre ces différentes structures qui se mettaient en place, puisque c'est quand même un vrai raz-de-marée, hein. Les Comcom, pour des gens dans les petits villages, c'était d'un coup, on nous enlève nos compétences, qui va décider maintenant, ils sont à 30 km de chez nous, qu'est-ce qu'ils savent de notre territoire, etc. Tu vois, ce genre de choses. Et ces réunions-là, ça a permis, voilà, de pouvoir dessiner le projet et puis en même temps rencontrer les décideurs, hein, du syndicat mixte ou des différentes collectivités locales ici. Bon, on avait quand même, nous, une existence avec une aide régionale forte, hein, depuis 2004. Bon, le département du Vaucluse nous découvrait, mais on a aussi très vite pu tisser des liens avec eux sur leur faire comprendre ce qu'on voulait faire. Et ce qui fait que finalement, de fil en aiguille, bon, on a bricolé, hein, les premières années beaucoup. Et puis là, ce qui nous a vraiment aidés, c'était en 2018 qu'on a été lauréat des projets biosphères de l'UNESCO. Ça a été pour nous d'un coup une reconnaissance, de notre travail, mais au niveau local, ça a eu une résonance. Et puis là, depuis 2017, le travail qu'on a fait avec l'équipe du GAL du Mont Ventoux, c'est-à-dire sur les fonds européens, là, on peut dire aujourd'hui qu'on est consolidé, parce que du coup, depuis 3 ans, là, cette année, on est en train d'ouvrir un nouveau lieu, qui est un lieu de résidence d'artistes. Là, ça y est, ça s'est fait. On a pu tisser, grâce à ces programmes européens, des liens avec d'autres territoires qui sont petit peu plus lointain, dans le 05. Et là, on part sur des projets de coopération où on sait qu'on va pouvoir travailler tranquillement. On sait qu'on a 2 ans devant nous. On travaille avec nos partenaires sur savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, c'est un cheminement qui commence par tout petit avec le maire du village, puis avec les structures locales qui se mettaient en place, qui existent aujourd'hui, une reconnaissance, et puis l'aide des partenaires plus importants, comme ce que peut être effectivement la région, les départements, l'État aussi, avec qui on a des échanges. Voilà, après on fonctionne comme n'importe quelle autre structure, mais il faut commencer, voilà, faut commencer par ce côté petit, et puis et au fur et à mesure, pouvoir implanter un projet, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et la relation avec les autres associations, ça, c'est très important aussi, parce qu'il y a plein d'initiatives dans des compétences très différentes, hein, au niveau du bio, au niveau de la transition énergétique. Donc là aussi, on a une action, c'est-à-dire que on n'est pas que demandeur auprès des élus, on est aussi force de proposition, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir, on peut participer, on peut apporter des idées, et ça fait partie un peu de ce qu'on appelle le monde de demain, c'est-à-dire quelle image peut avoir un lieu comme ça. Alors, on lutte évidemment contre le tourisme complètement irraisonné. On n'est pas très aidé parce qu'effectivement, il y a des émissions de télé. Alors, des vallées comme les nôtres, effectivement, on a des émissions qui viennent. Alors, c'est des grandes chaînes. Alors, du coup, les gens découvrent des territoires incroyables. Et depuis quelques années, on essaye de préserver ça parce que ça nous fait un afflux de population l'été de touristes qui sont pas obligatoirement, enfin qui viennent parce que d'un coup on est presque ouais, on est les autochtones presque qui viennent nous toucher pour savoir si on est vrai pour de vrai, quoi, si on est en chair et en os. Et en même temps il faut et à côté de ça on travaille beaucoup avec les collectivités et ça nos projets dans tous les domaines associatifs, eh ben ça fait évoluer parce que du coup on protège notre rivière qui est en danger, on protège la faune, on protège la flore. Et voilà, il y a tout un tas d'actions comme ça qui se mettent en place. C'est important parce qu'aujourd'hui, comme tu parlais de la crise du Covid, c'est ici, on est en milieu rural, on a eu deux crises, moi je dirais. Il y a eu la crise des gilets jaunes, d'une chose, et la crise du Covid qui est arrivée juste derrière. Et ici, les gens sur la crise des gilets jaunes se sentent touchés parce qu'effectivement, ici, si t'as pas de voiture, si t'as pas les moyens pour mettre de l'essence dans ta voiture, tu dois aller travailler à 10, 15, 20, 30 km. C'est des choses que, quelque part, que les gens vivaient pleinement en se disant,
Bien sûr.
oui, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche, il faut qu'on soit considéré différemment. Et puis la crise du Covid est arrivée derrière ça et on sait déjà que sur nos projets d'avenir, faut qu'on ait une réflexion importante parce qu'il y a des gens qui veulent quitter la ville, il y a des gens qui se disent on va aller s'installer pour une vie différente dans le milieu rural ou dans des petites villes, alors que c'est celles qui ont été le plus touchées parce que ce qu'on voit avec la crise du Covid, c'est que c'est les grands centres commerciaux qui sont restés ouverts et qui ont eu voilà et que ici pour un petit commerce qui travaille en plus saisonnièrement, se retrouver à rester fermé pendant des semaines et des semaines, voilà. Donc là, il y a un enjeu important et je pense que nous, en tant qu'acteurs culturels, il faut qu'on prenne ça en considération, qu'on l'intègre et qu'on le travaille avec les. Enfin, nous, on n'est pas là pour faire de la politique, mais on invite des artistes pour qu'ils puissent avoir montrer des chemins, avoir des résonances sur différents problèmes. Et je pense que ça peut aider, ça peut vraiment aider à préparer ce nouveau monde, parce qu'il y aura un nouveau monde, de toute manière, ça j'en suis persuadé, mais comment va-t-il se passer et surtout, comment va-t-on pouvoir intégrer s'il y a des nouvelles populations? Comment, par exemple, je parlais tout à l'heure de cette petite ville thermale. Bon, ben, on sait aujourd'hui que c'est très compliqué parce que pour une petite ville comme ça où les thermes sont restés 6 mois sur les 9 ouverts habituellement, c'est un vrai drame. Et en même temps, on sait qu'il y a une population nouvelle qui va arriver. Donc, il y a des réflexions à avoir.
C'est très juste hein, ce que tu dis, puisque j'ai assisté à une réunion cet après-midi sur les parcs nationaux, régionaux. Enfin, le parc national régional, enfin, il y en a plusieurs en fait, hein, en région, je crois qu'il y en a 9. Parc PNR, parc national régional. Et ils ont rappelé que cet été, donc avec la crise sanitaire, beaucoup de touristes français s'étaient orientés, donc on le sait bien sûr, sur le tourisme intérieur. Et donc ils ont assisté effectivement à une vague de touristes inhabituelle, hein,
Ah, tout à fait.
en plus grande quantité. Et c'est vrai qu'ils ont noté l'incivisme en fait. Enfin, ils n'ont pas parlé d'incivisme, pardon. Ils ont dit qu'il fallait éduquer les touristes parce qu'en fait ils s'étaient aperçus que les touristes qui étaient venus cet été, finalement, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un parc naturel, pardon, régional. C'est pas un parc national, c'est un parc naturel régional. Et donc, en fait, ils avaient des comportements un peu erratiques et pas adaptés aux paysages et aux sites qu'ils visitaient. J'ai une question avant de terminer parce que finalement, ça va très vite.
Oui, c'est sûr.
Quand tu invites quelqu'un, un artiste en résidence, une femme, un homme, que tu souhaites inviter pour qu'il intervienne sur le terme au pied du Mont Ventoux, comment tu choisis cette personne? Parce que c'est très particulier. On t'entend, on comprend que le projet, l'implantation, en tout cas, quand on t'entend, on comprend que chez toi, il y a une rigueur en fait, une manière, un respect très profond pour le lieu où tu es, où tu vis et ses habitants. Et ça, c'est très impressionnant. Mais les artistes que tu approches doivent avoir des qualités particulières parce que tu peux pas faire venir n'importe qui et plaquer un projet de manière brutale. Quel profil, s'il en existe un, d'artiste est plus adapté à cette particularité de grandeur nature?
Eh ben écoute, il y a deux niveaux. Premier niveau, c'est bon. Généralement, quand on invite des artistes en résidence, on fait un appel, des appels à projets. Donc ça nous permet à nous de décrire d'une déjà l'intention du projet. Qu'est-ce qu'on attend de l'artiste? De décrire un cahier des charges, c'est-à-dire et surtout d'expliquer, enfin que ce soit le plus clair possible pour l'artiste qui va répondre à cet appel, de savoir entre guillemets où il va mettre les pieds. C'est très différent d'aller faire une résidence au plein centre de Paris ou de Berlin ou de Marseille, d'arriver effectivement dans un village au fin fond d'une vallée où on a ici, comme tu le disais, voilà ce qui est important. Nous sommes dans des sites très sensibles, très protégés, hein. Il y a des zones Natura 2000, il y a des choses, on peut pas faire n'importe quoi sur au niveau environnemental, je veux dire. Et puis après, on met aussi en exergue un peu tout ce qui est, ça on y tient, c'est les savoir-faire locaux. C'est de quoi est constituée la ville d'ici, de voilà. Et puis d'arriver à l'alchimie, en fait, c'est d'arriver à choisir. Donc on choisit à un moment sur des projets, on choisit tel ou tel artiste parce qu'on ressent dans ce qu'il va nous écrire, dans ce qu'il va représenter dans son projet, on ressent une sensibilité qui va pouvoir s'adapter au territoire sur lequel on l'invite à venir intervenir. On fait ressortir des thèmes aussi, des questionnements. Et après, voilà, c'est un peu la recette qu'il faut utiliser, que nous on utilise. Et après, on a aussi des coups de cœur, c'est-à-dire on a certaines résidences où c'est que sur appel à projet, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir aussi, comme pourrait avoir un curator, c'est-à-dire choisir un artiste en particulier, parce qu'on sait dans son travail, on sait dans la rencontre qu'on peut avoir avec lui, eh ben que ça va plaquer parfaitement avec l'environnement ici. Surtout que nous, on a, enfin, grandeur nature, nos spécificités, c'est quand même la place de l'homme dans son environnement et la place de l'homme par rapport à la nature. On est dans de l'art environnemental et voilà. Donc déjà, on va dire que le ton est donné à partir du moment où on fait ces appels à projets.
Merci Didier. Juste, je voudrais revenir sur un point qui est quand même important parce que grandeur nature, c'est une petite structure On l'a largement évoqué, mais ça vous a pas empêché de monter des projets européens ou même d'obtenir une labellisation de l'UNESCO. C'est quand même très étonnant. Je voudrais juste en très peu de mots, mais que tu nous expliques comment vous avez réussi cette prouesse, puisque moi je reçois pas mal d'associations, de grosses associations, de gros lieux qui me disent qu'ils n'arrivent pas à obtenir des fonds européens, ils savent pas comment faire. Or, vous avez réussi depuis un moment à vous faire repérer des bureaucrates européens. Comment avez-vous fait?
Comme j'ai expliqué au début, c'est une histoire de temps et de compréhension de ce qu'on veut faire passer. Et effectivement, c'est une histoire de temps. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, tu vois, on est arrivé en 2013 ici. L'association existe depuis 2004. Bon, on avait déjà fait des choses au niveau européen parce que dans le Kera, on était sur un territoire transfrontalier, donc il y avait des facilités pour pouvoir travailler avec nos collègues italiens, hein. Donc ça nous a, voilà, on a eu cette expérience. Moi, quand je suis arrivé en 2009, bon, j'avais quelque part derrière moi aussi un bagage. Moi, j'ai travaillé à Lille 2004, capitale européenne de la culture, pour diriger la maison Folie Oisenne. Donc, quelque part, voilà, disons que c'est un savoir-faire, hein, c'est un métier, quelque part. Le soutien local nous a permis aussi obtenir un budget de l'Europe, c'est avant tout. Déjà, il y a vraiment une intention à mettre, voilà, c'est ce qu'on appelle une note d'opportunité, on passe devant des groupes, enfin, le GAL, c'est des groupements, hein, d'action locale qui décident quel projet va être choisi. Donc c'est un travail qui est long, où on travaille pendant 2 ans, on doit présenter à plusieurs reprises le projet. Et dans ces groupements, dans ces GAL, dans ces groupements locaux, il y a aussi bien des habitants que des techniciens, que des élus. Voilà. Et c'est voilà toute cette et à un moment donné, voilà, on va dire que les choses elles prennent et puis d'un coup, ça nous permet de pouvoir d'accéder à des budgets qui semblent parfois difficiles à obtenir. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Il faut pas être pressé. Il faut surtout pas essayer d'appliquer sa politique culturelle, on va dire entre guillemets, enfin sa démarche culturelle à des demandes politiques qui sont, voilà, il faut être, je crois qu'il faut être sincère. Et puis c'est comme ça que ça marche, il me semble, hein.
Merci, merci beaucoup. Oui, il faut garder de la distance avec les élus locaux, en fait, si je comprends bien ce que tu dis. Un peu de
Ouais,
distance et un
voilà,
peu
il faut
d'indépendance.
exactement. Il faut, tout en étant actif dans la vie locale et comme je le disais, force de proposition, il ne faut pas, voilà, faut pas obligatoirement, on n'est pas obligé de changer le développement de son action par rapport à telle ligne budgétaire qui va se mettre à exister. On va dire, on va changer tout le projet parce que là, on va correspondre à ceci, à cela, et ça va nous permettre d'avoir ceci et cela. À mon avis, c'est se fourvoyer, voilà, c'est quelque chose qui me semble pas le bon chemin. Je pense qu'il vaut mieux, voilà, travailler proche du terrain, comprendre là où on est, et puis répondre aux questionnements de la population, d'un territoire, de son développement, son devenir, le mieux possible. C'est pas toujours facile, hein. Comme je disais, ici, il y a des traditions très fortes. On est obligé de concilier, des gens, enfin, on peut parler des chasseurs, mais on peut parler aussi d'autres domaines où il faut vraiment comprendre et se faire comprendre. Et utiliser le dialogue, jamais utiliser la confrontation, parce que sinon c'est foutu.
Merci beaucoup, Didier. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, le tour. On reviendra. Je ferai le déplacement l'année prochaine. Je l'espère, Jérôme Ventoux. Je te
Bienvenue.
remercie beaucoup d'avoir évoqué avec moi l'activité de grandeur nature. Je remercie Jean-Michel. Je remercie les personnes qui ont écouté ce qu'on s'est dit. Et ben, je vous dis à bientôt tous. À bientôt, cher Didier, pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.
Merci, merci Bertrand, et puis à très bientôt.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.